peut rater sa vie, mais pas sa mort. C'est avec cette phrase du coroner que je vous souhaite la bienvenue pour la seconde saison d'Histoire en Onde. Ici Thomas Burkhardt et je serai aujourd'hui et pour le reste de cette saison accompagné de Thierry Warnet.
Bonjour.
L'automne arrive, les arbres revêtent leur cap orangé, tandis qu'Halloween approche. Et donc, Thiao, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, dans ce contexte qui se prête au morbide?
Dans ce contexte, on va parler des morts stupides de gens illustres de notre histoire qui ont fini de manière surprenante. On va parler de leur vie, de leur mort, et il est bon de noter, ceci étant dit, qu'on ne va pas parler ici des plus connus de ces décès, tels que notre bon vieux président Félix Faure, mort sous le coup de la pompe funèbre, ou alors des destins de nos rois Louis III et Charles VIII qui ont rencontré ces 10 destins à leur porte.
Alors linteau de porte, je dirais même. Et donc, Thiao, de qui allons-nous parler en premier?
Il me semble important de parler de tous ces cas de manière chronologique. On va donc commencer ici par Pythagore. On est en Grèce antique. Pythagore naît à Samos au cours du 6e avant Jésus-Christ. Celui-ci est notamment connu de nos jours et haï par certains, par beaucoup même, pour son célèbre théorème géométrique que l'on va rappeler ici, hein, pour rappeler des traumas à nos auditeurs, qui est donc le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c carré égale a carré plus b carré. Il n'a cependant pas fait que cela dans sa vie. Pythagore s'illustre notamment par ses théories musicales et par ses croyances. Celui-ci cultive en effet un goût pour l'ésotérisme assez prononcé et fonde même un culte autour de sa personne dans la ville de Crotone en Italie. Il est bon de noter qu'il établit aussi d'autres écoles dans toute l'Italie grecque, de ce qu'on appelle la Grande Grèce. C'est là que l'histoire devient intéressante. À partir de -510, des soulèvements éclatent en Italie, notamment à Crotone, et Pythagore s'en va vers Métaponte, dans la pointe de la botte, dans la province de Matera. C'est là qu'il trouve la mort en 497 avant notre ère. Selon certaines sources, il serait mort dans l'incendie de sa maison. Incendie certes criminel, mais quoi de bien insolite là-dedans, me direz-vous, mis à part que c'est certains de ses détracteurs qui auraient mis le feu à sa maison. Eh bien, ce n'est pas cette version de sa mort qui va nous intéresser ici, mais c'est celle d'un biographe postérieur de 150 ans à Pythagore, un certain Diogène Laërce, ou Laërqué, qui nous dit que Pythagore serait mort en se faisant pourchasser par des Syracusains auxquels il avait causé du tort et où il avait troublé l'ordre public avec ses disciples. Cependant, arrivant devant un champ de fèves, légume proscrit par la vie du culte pythagoricien qu'il a lui-même mis en place, Pythagore s'arrête, refusant catégoriquement de traverser le champ de l'infâme légumineuse et se faisant donc massacrer par les Syracusains, mettant fin à la vie du penseur.
Eh bien, on dirait que notre très cher Pythagore commençait à leur courir sur le haricot, si je puis dire. Et donc, n'équitons pas le monde grec tout de suite, qui regorge énormément de ce genre d'anecdotes à propos de morts assez stupides ou indignes de ses propriétaires, comme pour le fameux Pyrrhus, deuxième personnage à la mort insolite, qui meurt quant à lui d'une façon pas vraiment plus glorieuse. Grand général grec, qui soumet la Grèce des cités-états, derrière qui se rangent les cités grecques de Sicile, qui se sont réconciliées alors même qu'elles se querellaient depuis plusieurs décennies, celui qui met à mal la République romaine, qui arrive à 30 km de Rome et menace la cité millénaire, celui-là même qui donne son nom à un type de victoire particulier, hein, les victoires à la Pyrrhus, car sa victoire d'Asculum en -280 est si désastreuse qu'elle n'a de victoire que le symbole avant de précipiter sa chute. Bref, donc nous voilà dans la péninsule grecque, en -272, juste après sa défaite contre les Romains. Hein. Donc Pyrrhus décide de rétablir son autorité à Argos, et c'est dans un combat de rue, hein, pendant la reprise d'Argos, que le glorieux général grec, lointain cousin d'Alexandre le Grand, meurt frappé par une tuile lancée par une vieille dame qui, voyant son fils perdre dans un combat, décida de l'aider. Ce dernier acheva ce grand homme d'un coup de lance bien placé.
C'est la tuile, comme on dit. En continuant dans la lancée de l'Antiquité et des Romains, il me semble bon, ici, de parler de la mort de Claudius Drusus. Qui est-ce, me demanderez-vous? Eh bien, je me suis posé la même question en tombant sur son nom. Il s'avère qu'il est en fait le fils de l'empereur Claude. Alors, l'empereur Claude, ça vous dit peut-être pas grand-chose, et d'ailleurs, quand Claudius Drusus meurt, Claude n'est pas encore empereur. Mais Claude, il s'agit donc de l'oncle de Caligula, du neveu de Tibère, donc d'un empereur bien bien implanté dans sa dynastie, qu'on appelle d'ailleurs Julio-Claudienne, nommé par son nom, et donc aussi théoriquement un petit beau-fils, j'ai pas le terme exact, d'Auguste, le premier empereur de Rome. Et donc, Claudius Drusus est un personnage qui aurait pu devenir extrêmement important pour l'Empire, comme l'a été par exemple Germanicus. Mais il n'a pas le temps de connaître cette grande importance, car il meurt à 15 ans. Il périt à Pompéi, mais pas dans l'explosion du Vésuve, qui est la première chose qui pourrait nous venir en tête, comme est mort Pline l'Ancien, donc auteur, qui lui aussi a eu une mort plutôt insolite, que je raconte ici dans une petite parenthèse. Globalement, en voulant regarder l'explosion du Vésuve depuis l'autre côté de la baie, il s'embarque sur un bateau et meurt sur le pont de son bateau, étouffé très sûrement dans les fumées de l'éruption. Mais non, la mort de Claudius précède l'éruption du Vésuve de 62 ans. Mais alors comment meurt-il, me direz-vous ? Eh bien, durant un banquet de l'aristocratie impériale, celui-ci décide, par plaisanterie, et sûrement pour se donner en spectacle aussi un peu, de montrer à ses convives son talent pour rattraper les poires avec la bouche. Celui-ci réussit son acte, il lance la poire en l'air et la rattrape dans sa gueule. Un peu trop bien, peut-être, la poire venant se loger au fond de sa gorge, étouffant le prince sur le coup, logique.
Eh bien, changeons un peu d'époque maintenant et rendons-nous plutôt au XVIIe siècle, plus précisément le 24 octobre 1601 à Prague, hein, donc en plein empire, en plein Saint-Empire romain germanique. Et on retrouve là Tycho Brahe. Donc Tycho Brahe, c'est un grand astronome danois hein, qui est connu pour avoir marqué une rupture avec ce qu'on appelle la tradition des anciens. Hein. C'est-à-dire, il faut savoir qu'à l'époque, les grands scientifiques validaient leurs hypothèses par rapport à des écrits tels que ceux d'Aristote ou encore d'autres grands penseurs de l'Antiquité, ou même plus anciens qu'eux en tout cas. Mais Tycho Brahe, lui, là où il marque une rupture, c'est que ce grand astronome, lui, préfère l'observation pour valider ses hypothèses. Hein. Et donc, c'est un très très grand scientifique, hein, renommé et reconnu même par ses pairs et les grands de son temps, bah, comme le Saint-Empereur, justement, Rodolphe II. Ce qui nous conduit par ailleurs à sa mort. Donc Tycho Brahe, en fait, il va passer un long moment en carrosse avec Rodolphe II, puis il va passer un très long repas avec Rodolphe II, toujours donc à Prague, et il va se retenir d'uriner pendant tout ce temps. Parce que voyez-vous, l'étiquette et le protocole veuillent qu'on n'urine pas en présence de son impériale majesté. Ce qui fait que durant ce festin, eh bien, sa vessie explose, hein, faute de l'avoir soulagé en temps et en heure. Ce qui provoque d'ailleurs une septicémie, bah, c'est ce qui va le tuer, hein, mais bon. Comme quoi, moi je vous le conseille, hein, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut quand vous en avez besoin.
C'est bien vrai, c'est bien vrai. Et bien plus proche de nous, faisons un tour dans les États-Unis de la fin du 19e siècle, avec Alan Pinkerton, un homme né en 1819, fondateur de la compagnie de détectives privés du même nom, donc la compagnie Pinkerton, en 1850. Pour certains de nos auditeurs, cela fait peut-être sonner une cloche là-dedans. Cette agence de détectives a en effet inspiré la Pinkerton dans les jeux de la licence Red Dead Redemption. Pour en revenir à Alan, celui-ci se sert de l'agence notamment afin de servir le gouvernement américain, comme pour faire tomber à l'eau le complot de Baltimore en 1861 visant à assassiner Abraham Lincoln sur la route de son investiture au poste de président des États-Unis d'Amérique. Comme quoi, les troubles politiques aux États-Unis, ça date pas d'hier.
Exactement.
Et d'ailleurs, petite anecdote sur comment ils ont déjoué ce complot de Baltimore, ils ont caché Abraham Lincoln dans un wagon à bestiaux. peu glorieux, mais ça fonctionne. Sa carrière continue dans les services secrets jusque dans les années 1880, servant notamment l'Union, le parti d'Abraham Lincoln, durant la guerre de sécession. Mais il sert aussi à fournir des informations sur les mouvements ouvriers au gouvernement afin d'en faciliter la répression. Et il fait aussi partie, Alan Pinkerton et toute son agence, des services secrets qui ont poursuivi le groupe de criminels de James Younger. Pour certains de nos auditeurs qui connaissent peut-être l'histoire du Far West, le groupe de James Younger est un des plus virulents de cette époque. Et Pinkerton décide d'arrêter la recherche après avoir perdu 20 hommes de manière inexpliquée. Cette grande carrière au service des services secrets américains trouve cependant un arrêt brutal. En 1884, alors âgé de 64 ans, Pinkerton se balade dans les rues de Chicago, glisse sur un trottoir et tombe, ce qui est la suite logique de la glissade, se mordant violemment la langue. La blessure semble plutôt bénigne au premier abord et n'est donc pas traitée. Mais, dans les semaines qui suivent, s'infecte et se gangrène. Pinkerton meurt donc quelques semaines plus tard, le 1er juillet 1884, à cause de d'une gangrène de la langue.
Eh bien, vous qui parliez donc de cet expert de la répression, si j'ai bien compris, des mouvements ouvriers aux États-Unis, intéressons-nous aussi à d'autres experts de la répression, si je puis me permettre, puisqu'on va s'intéresser à nos voisins espagnols. Bon, ils ont malheureusement connu la dictature pendant près de 36 ans, mais les officiels du régime ont bien heureusement connu des morts dignes d'un Tex Avery. On a par exemple José Sanjurjo, hein, un des conspirateurs qui donna naissance au coup d'état nationaliste qui débuta la guerre civile espagnole. Pour l'anecdote, hein, Sanjurjo avait déjà tenté un premier coup d'état avec une partie de l'armée, chose qui échoua, le poussant à s'exiler au Portugal après un bref passage en prison. C'est donc de la ville d'Estoril que le général se prépara au départ pour l'Espagne, après que les cinq généraux séditieux, dont Franco, l'avaient désigné comme généralissime, sauveur de l'Espagne, et donc tout le pataquès que ça impliquait. C'est donc tout pimpant, tout fringant, qu'il se prépare à prendre l'avion, et alors même que son pilote, le prévenu qu'emporter tous ses bagages serait une chose dangereuse, notre diva hispanique fit embarquer une malle avec tous ses uniformes militaires, hein, qu'ils soient officiels ou de parade. Chose qui provoqua le crash de son avion, un biplan pas très solide.
Une affaire de poids, donc, ça a dû peser dans la balance.
Et vous faites bien de dire ça, hein, mon cher ami, parce que c'est pas la seule affaire de poids qu'on a là, hein. Ce ne sont pas non plus les seuls déboires avec les généraux espagnols, hein, sachez-le, l'Espagne franquiste n'a jamais eu de programme spatial. Or, son tout premier astronaute décolla en plein milieu de Madrid le 20 décembre 1973. De son nom original, Carrero Blanco était un homme d'État espagnol très proche de Franco et désigné comme son probable successeur. Il était même vice-président du régime, et alors qu'il se déplaçait dans sa Dodge Dart blindée, il fut assassiné par l'ETA, le Skatita Askatasuna, donc le groupe indépendantiste du Pays Basque. Il faut dire que ces derniers ne font pas dans la dentelle, hein, et firent exploser une bombe de 75 kg de dynamite dans un tunnel creusé juste en dessous de la route, chose qui provoqua la mort des occupants de la voiture, ainsi que son décollage et son atterrissage soudain dans la cour de l'immeuble voisin.
Il est bon de noter que le dit immeuble dans lequel la voiture a atterri, sur un balcon dans la cour, était haut de 20 mètres et comportait 5 étages. L'outrepasser est donc une affaire dont seules les bombes artisanales basques pouvaient se charger.
Et par ailleurs, hein, sachez-le, il l'avait appelé, l'ETA avait appelé cette opération l'Opération Ogro. Et en français, c'était l'opération Ogre, probable raison du surdosage d'explosifs. Et je tiens d'ailleurs à vous conseiller d'aller voir les photos de cet événement. Il y a des photos très très amusantes, je vous l'assure, de cette voiture en plein vol.
De la voiture qui décolle. Comme quoi, il ne fait pas bon d'être un franquiste aux yeux du destin.
Exactement. Bon, nous pourrions continuer à en citer, mais le temps nous rattrape, hein, tout comme la mort nous rattrapera tous un jour, car c'est ainsi qu'est la vie. Sur une note plus légère, nous nous retrouverons le 8 novembre pour vous parler de l'Empire du Mexique et de son tristement célèbre empereur, Maximilien Ier. En attendant, nous vous souhaitons une agréable journée, un agréable week-end, et surtout, n'oubliez pas...
L'histoire, c'est vieux, c'est fin, mais ça se mange sans fin.